Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode de l'Info Humanitaire. Je suis Bertrand Groussard, nous sommes le mercredi 27 juillet 2022 et aujourd'hui je vais vous parler de deux sujets que vous m'avez réclamés directement sur le compte Instagram. Alors je vous invite tout de suite, si ce n'est pas déjà le cas, à me rejoindre sur Instagram à Périple Humanitaire tout attaché. C'est grâce à ce média que je peux vous poser des questions en direct et que vous pouvez me répondre. En fait, c'est vraiment la plateforme d'échange que je favorise pour l'instant. Et ça me permet de pouvoir proposer des sujets, de pouvoir traiter des sujets qui me sont directement demandés par vous. Et nous attaquons tout de suite avec la République démocratique du Congo, suivie du conflit israélo-palestinien. En République démocratique du Congo, l'actualité d'hier, ce mardi 26 juillet 2022, nous apprend qu'un casque bleu et deux membres des polices des Nations Unies ont été tués lors d'une attaque dans le nord Kivu. Un casque bleu marocain et deux policiers indiens ont en effet été tués ce mardi à Butembo, dans le nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, au cours d'une attaque de la base de la MONUSCO dans cette ville. Donc dans cet épisode, ce sera l'occasion d'éclaircir un petit peu quel est le rôle justement des casques bleus, qu'est-ce que la MONUSCO précisément, et j'en profiterai pour faire un petit rappel de ce qu'est la crise en RDC, chose qui m'a été pas mal demandée par plusieurs d'entre vous. Donc tout de suite, nous allons aborder déjà la première question, qu'est-ce que c'est les casques bleus? Alors les casques bleus sont des militaires ou des civils comme des policiers qui sont mis à la disposition de l'ONU par les États membres pour assurer des missions de maintien ou de rétablissement de la paix. Vous en avez déjà entendu parler, le casque bleu fait référence au casque qu'ils portent pour pouvoir se distinguer des autres forces armées. Donc ils agissent sur ordre du Conseil de sécurité de l'ONU en vertu de la résolution 377 des Nations Unies. Leur rôle est tout simplement de protéger les civils en faisant des opérations de maintien de l'ordre, du déminage ou encore en formant la police locale. D'ailleurs, pour faire le lien avec l'autre sujet de cet épisode, il est bon de savoir que la première force de maintien de la paix de l'ONU a eu lieu dans le cadre de la guerre arabo-israélienne en 1948. Théoriquement, cette force armée est impartiale. Elle agit avec le consentement des différents parties au conflit et elle limite son usage de la force à des cas de légitime défense. Je précise théoriquement car justement les casques bleus ont déjà fait usage de la force en République démocratique du Congo dans les années 60 pour mettre fin à la sécession de l'état du Katanga. Par ailleurs, leur inaction a pu être également critiquée lors des massacres au Rwanda et en Yougoslavie dans les années 90. C'est pourquoi le représentant spécial adjoint en charge des opérations et chef de mission par intérim, Kassim Diagne, a déclaré que la MONUSCO est, je cite, « en RDC à l'invitation du gouvernement pour aider à protéger les civils et promouvoir la stabilité ». Par ailleurs, la MONUSCO, il est intéressant de revenir sur sa création. Donc, c'est le nom donné tout simplement à cette mission des Nations Unies en RDC. Et à travers l'histoire de sa création, nous allons pouvoir en profiter pour faire un petit point sur la crise en RDC. Donc, retour en arrière, en 1994, après le génocide du Rwanda, des Hutus rwandais, dont certains sont d'anciens génocidaires, se réfugient dans les provinces congolaises du Kivu. Le Rwanda étant à l'est de la RDC, c'est tout à fait normal de retrouver donc tous ces conflits et toutes ces tensions à l'est de la RDC. En 1997, le Rwanda et son voisin, l'Ouganda, soutiennent l'insurrection menée par Laurent Désiré Kabila, qui renverse Mobutu au pouvoir en République démocratique du Congo. C'est l'occasion pour le Rwanda et le nouveau pouvoir Tutsi de Paul Kagame de faire la chasse aux génocidaires Hutus réfugiés en RDC. Mais l'arrivée au pouvoir de Kabila ne suffit pas à stabiliser les tensions dans la région, et le Kivu s'embrase de nouveau en 1998. Derrière les rebelles se cachent des anciens alliés de Kabila, le Rwanda et l'Ouganda, certainement déçus de ne pas avoir obtenu un accès aux différents gisements d'or, de cuivre et autres minerais très précieux dans l'est de la République démocratique du Congo. En effet, cette zone de la République démocratique du Congo regorge de différents minerais tout aussi précieux les uns que les autres. En 1999, la mission de maintien de la paix, appelée MONUC, est déployée à la demande du gouvernement Kabila pour obtenir un cessez-le-feu et exiger le retrait des forces étrangères sur le sol congolais. Aujourd'hui encore, la mission existe toujours, cette fois sous le nom de MONUSCO. Alors ce rapide historique permet de comprendre les origines de la crise et pourquoi la MONUSCO est aujourd'hui encore la cible d'attaque. En effet, les richesses de la RDC continuent d'attiser les tensions et les conflits à l'est du pays. Il y a même un regain des tensions actuellement entre le Rwanda de Paul Kagame et le... Il y a même un regain des tensions entre le Rwanda de Paul Kagame et la République démocratique du Congo avec son nouveau président, Félix Tshisekedi. Kassim Diagne explique la prise à partie de la MONUSCO dans un tweet. Selon lui, il reste trois provinces du Sud Kivu, de l'Ituri et du Nord Kivu qui sont difficiles parce que des groupes armés y sévissent depuis des années et c'est très complexe. Cette complexité crée une impatience et une frustration de la part des populations. La deuxième actualité nous amène donc sur le conflit israélo-palestinien. Alors c'est clairement dans le sondage que j'avais fait sur Instagram le conflit qui vous a que vous avez le plus demandé, que vous avez le plus sollicité. Alors pourquoi on en parle? Tout simplement parce que les tensions se sont accrues ces dernières semaines en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, dans un contexte où la poursuite des activités de colonisation d'Israël se maintiennent. En effet, une haute responsable de l'ONU a réclamé mardi l'arrêt immédiat de la violence et estimé que les mesures pour soutenir le peuple palestinien étaient essentielles dès maintenant. Lynn Hastings, coordinatrice spéciale adjointe dans le processus de paix au Moyen-Orient, a dénoncé ce mardi 26 juillet, lors d'une réunion du Conseil de sécurité, les violences quotidiennes qui sont faites dans tout le territoire palestinien occupé entre les forces de sécurité israéliennes et les Palestiniens. En effet, elle déplore également l'expansion illégale des colonies du peuplement en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, qui n'ont cessé de réduire les terres dont disposent actuellement les Palestiniens pour se développer et gagner leur vie, limitant leurs déplacements et leurs accès et érodant leurs perspectives de création d'un État palestinien viable. Donc pour revenir rapidement sur la crise, parce que c'est quand même une crise très complexe et essayer de la résumer en quelques minutes est toujours un exercice compliqué, il faut remonter à 1948, lorsque, après la Seconde Guerre mondiale et le massacre des Juifs en Europe par le régime nazi, un État israélien est donné aux Juifs. Par ailleurs, cet État était réclamé au moins depuis 1897, lorsque Théodore Herzl publie l'État juif. L'ONU adopte alors un plan de partage de la Palestine entre les Juifs et les Arabes. Ces derniers, les Arabes, refusent et entrent immédiatement en guerre contre Israël. Depuis, les guerres entre Israël et les pays arabes voisins se sont enchaînées et le territoire israélien n'a cessé de s'étendre, ne laissant plus que la Cisjordanie à l'est du pays et une petite bande de terre avec un accès à la mer Méditerranée, la bande de Gaza. La crise humanitaire a commencé dès le début de ce plan de partage de l'ONU, et en effet, dès 1949, l'UNRWA, United Nations Relief and Works Agency, est créée pour répondre aux besoins humanitaires des Palestiniens. Les réfugiés palestiniens sont les seuls réfugiés au monde à ne pas dépendre du Haut Commissariat aux réfugiés, l'UNHCR. Pour tous les étudiants qui m'ont déjà eu en cours, ils savent que je parle de cet événement-là quand je relate l'histoire de l'humanitaire, tout simplement parce que c'est une exception qui est souvent assez méconnue. Aujourd'hui, les besoins humanitaires estimés par l'OCHA pour 2022 sur le territoire palestinien occupé s'élèvent à 510 millions de dollars. À ce jour, seulement 25% des besoins sont couverts, ce qui concerne une centaine de projets. Donc comme vous pouvez le constater, la crise n'est pas nouvelle et le cri d'alarme lancé par les Nations Unies ne sera certainement malheureusement pas le dernier. La solution de sortie de crise peut reposer sur la création d'un État palestinien et donc d'une cohabitation à deux États, avec une problématique néanmoins assez forte sur la capitale Jérusalem. Toutefois, la plupart des États arabes semblent avoir une attitude de plus en plus pacifiste à l'égard d'Israël, comme l'Égypte et la Jordanie qui ont signé des accords de paix. Ce qui fait que cette solution des deux États semble quand même de moins en moins envisageable. Cette résignation peut amener à la solution finalement d'un seul État israélien dans lequel les partis arabes prendraient une part suffisamment représentative sur la scène politique pour défendre les intérêts palestiniens. En tout cas, ce serait peut-être l'un des scénarios à envisager. À l'heure où je vous parle, un séisme de magnitude 7 a frappé le... À l'heure où je vous parle, un séisme de magnitude 7 a frappé les Philippines. Je vais certainement donc en parler dès demain dans la prochaine revue d'actualité. Je me permets juste, voilà, de... Je n'ai pas rebondi sur... Voilà, je n'ai pas rebondi tout de suite aujourd'hui sur cette actualité. J'attends qu'il y ait un petit peu plus d'informations et on fait le point dès demain sur cette situation. J'espère que cet épisode d'aujourd'hui vous a plu. J'ai donc essayé de répondre au mieux aux attentes que vous pouviez avoir et que vous m'avez fait remonter directement sur Instagram. N'hésitez pas à continuer à me faire des retours, ça me permet d'alimenter un petit peu ces chroniques et de pouvoir proposer des choses qui vous intéressent. J'espère que le contenu a été suffisamment digeste. Ce sont quand même deux crises qui durent depuis des décennies et qui sont assez importantes dans le secteur humanitaire. Voilà, j'espère que malgré la complexité des sujets, j'ai réussi à être suffisamment clair. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me faire un retour également, je reviendrai sur ces sujets. De toute façon, l'actualité permet toujours de pouvoir revenir de temps en temps sur ces sujets afin de pouvoir continuer à faire le point. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que vous allez bien, et je vous dis donc à très bientôt pour parler justement. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous allez bien, et je vous dis donc à très bientôt pour parler notamment de ce séisme aux Philippines. À très bientôt!